20h30, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, FPP pour les intimes. Et je vais vous faire une confidence, surtout pour vous, chères auditrices, qui m'inondez de messages après chaque émission. Eh bien voilà, je suis marié. Et en plus, je suis avec la même femme depuis 15 ans, enfin 16 ans, parce que des fois qu'elle écoute, les femmes sont en général assez à cheval avec les chiffres. Enfin bref, 16 ans, c'est pas rien. Et vous savez ce qui est difficile ?
C'est l'heure de l'aveu. Nous n'étions pas au courant, nous ne sommes pas responsables.
Et bien vous savez ce qui est difficile au bout de 16 ans, messieurs, dames ? Non ? Vous savez pas ? Oui, non ? Non ?
Eh ben,
ce qui est difficile,
que...
c'est de trouver des idées de cadeaux. Eh oui, what did you expect, comme dirait Nicole. Oui, des idées de cadeaux. Vous êtes sur Zoom écologie, oui, je l'ai dit déjà.
Il y a plein de sextoys écologiques, en fait. Hein.
Voilà.
C'est très facile à trouver maintenant et c'est plutôt intéressant, sans phtalate, sans parabènes.
D'accord, alors on fera la pub pour les sextoys écologiques, d'accord, c'est une bonne idée. Bref, à raison de deux idées de cadeaux par an, voyez-vous, messieurs, dames, j'ai tout fait. Hein. Le week-end surprise à Vesoul, le bon pour un massage, le bon pour avoir le droit d'acheter une paire de chaussures en plus. Là, c'est vrai que j'étais un peu faible. Le sac, la lingerie avec du fil transparent, le sac. J'ai même écrit une chanson, une année, etc. Bon, bref. Et elle aussi, elle a tout fait, j'ai tout eu. Mais l'année dernière, à quelques jours de Noël et devant l'angoisse annoncée, j'ai décidé de me faire un cadeau moi-même. Et je me suis fait plaisir. Vous savez quoi ? J'ai adhéré à une AMAP. On y vient, voilà, ils sont rassurés, une AMAP. Et donc, depuis tous les mardis, alors on expliquera pour Arbon qui est à côté de moi ce que c'est qu'une AMAP tout à l'heure. Mais, parce qu'il y a quand même des gens qui ne savent pas ce que c'est que les AMAP, j'ai pas prévu d'en parler dans mon intro, mais on en parlera juste après, bref, c'est pas grave. Donc, depuis tous les mardis à 18h, à la maison de quartier, téléphone, je vais chercher un panier dans lequel il y a des légumes. Et dans ce panier, il y a beaucoup de choses en fait. J'ai appris par exemple, grâce à ce panier, que les légumes ont des saisons, que les tomates ne poussent pas toute l'année et que finalement on peut s'en passer, que le topinambour c'est délicieux et c'est très simple à cuisiner, ma femme adore, par contre c'est un peu difficile à éplucher, mais enfin bon, c'est très bon. Que j'avais des voisins de quartier très sympas, qu'on peut être très sexy d'ailleurs avec un sac de 6 kilos de légumes, qu'on apprécie encore un peu plus le mois de mai quand on découvre des fraises dans son panier, qu'il y a un autre modèle que celui de l'agriculture industrielle qui affame la planète, appauvrit les sols et nous gave de produits chimiques. J'ai aussi appris à peser 1 kg de pommes de terre du premier coup, que les légumes ne se conservent pas naturellement 2 semaines, non, pas du tout. Et tout ça pour le prix d'un forfait téléphonique, c'est-à-dire à peu près 15 € par semaine. Et en plus, dans le panier, figurez-vous qu'en général, j'ai 5 à 6 kg de légumes ou de fruits bio, riches en tout ce que vous voulez, récoltés le matin même. Bref, à quelques jours de la fête des AMAP qui a lieu ce dimanche, on va parler de ce système qui illustre si bien un modèle assez réussi d'économie sociale et solidaire. Laurence, tu me diras si je me trompe. Et on reçoit pour cela des gens passionnants, comme à chaque fois dans cette émission. Donc on reçoit par exemple Garlone Kergoulet, qui est administratif du réseau AMAP Île-de-France. Bonjour.
Bonjour.
On reçoit également Jean Pluvinage, qui est socio-économiste, ancien directeur de recherche à l'INRA, qui fait d'ailleurs toujours des missions pour l'INRA. Bonjour Jean.
Bonjour.
Notre parenthèse musicale aujourd'hui sera portée par Arbon, qui est un chanteur-poète et néanmoins ami. Bonjour, bonjour Arbon.
Bonjour Alex.
Et mes deux animatrices préférées sont là aujourd'hui, Laurence et Sophie, bonjour.
Pop-Pom Girl,
bonjour. Laurence est toute en rouge, elle est charmante. Et Cyril, notre sauveur, à la technique, encore une fois de plus. Messieurs, dames, Zoom Écologie, c'est parti, le jingle.
Tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Voilà, et on attaque comme c'est la tradition maintenant chaque mois, sauf le mois dernier parce que Laurence avait séché, par la rubrique tant attendue de Laurence et qui parle justement d'agriculture. On t'écoute.
Oui, bonsoir. Donc c'est une nouvelle chronique transnationale autour de l'agriculture. L'agriculture, c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux pour nourrir le monde. Pourtant, en 2010, 925 millions d'êtres humains souffrent de la faim. C'est un peu moins qu'en 2009. C'est toujours trop. Avec la montée des prix des matières premières, l'inflation est à la hausse et le prix des aliments augmente encore plus vite que ceux des autres biens et services. Pourtant, notre planète, qui accueille aujourd'hui près de 6,8 milliards d'habitants, est en mesure de les nourrir, à condition de changer de système. Agrandir les exploitations, utiliser un maximum d'engrais et de pesticides, produire de manière intensive, c'est la réponse politique standard. Or, on voit bien que cela ne marche pas. Mieux vaut soutenir les petites exploitations, qui souvent d'ailleurs sont gérées par des femmes. C'est la meilleure façon de lutter contre la faim et la pauvreté. Là, je vais faire une pause. C'est-à-dire qu'il faut arrêter là, parce que c'est Zoom écologie. Alors l'écologie politique, hein, elle est vraiment quand même antisexiste.
D'accord.
Donc là, Alexandre, tu as très mal commencé. Donc, je vais répéter. Hein, effectivement, les petites exploitations, alors c'est moins le cas peut-être en France, mais en Asie, en Afrique, en Amérique latine, très, très souvent, très majoritairement, elles sont gérées par les femmes. Donc, comment soutenir ces petites exploitations, ces petites fermes? Il y a plusieurs façons de faire. La fondation Bill et Melinda Gates, par exemple, très impliquée en Afrique avec le projet Agra, possède aussi des actions Monsanto et subventionne la recherche OGM. Développer des marchés juteux pour les multinationales, c'est pas franchement écolo. De son côté, la Via Campesina maintient que la meilleure façon de s'adapter au changement climatique, de revitaliser les économies rurales, c'est de mettre en œuvre des politiques qui encouragent la souveraineté alimentaire, l'autonomie alimentaire et l'agroécologie. Les fondements étant bien sûr les semences locales. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure d'en reparler. C'est vrai que tout ça, c'est quand même plus logique. Encore faut-il que ces organisations paysannes puissent se faire entendre. Ce sera le cas au G20 du 22 et 23 juin prochain, où pour la première fois, grâce à la pression des ONG, il y aura des représentantes et des représentants d'organisations, de mouvements sociaux, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe, qui pourront rencontrer les négociateurs et faire entendre leur position, que ce soit soutenir l'agriculture paysanne et familiale, dénoncer l'influence des agrocarburants sur l'augmentation des prix de la nourriture ou encore montrer l'effet néfaste des accaparements de terres sur la souveraineté alimentaire. Ça changera de l'avis des lobbies de l'agroalimentaire. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous le 25 mai prochain à partir de 18h à la salle Jean Dame dans le 2e arrondissement, à l'invitation notamment de la Confédération Paysanne, d'Artisans du Monde, d'ATTAC. Ce sera l'occasion notamment d'écouter Vijay Javandia, un producteur de coton indien, qui donnera peut-être ce chiffre. Pour une chemise qui demande 200 grammes de coton, qui coûte environ 20 euros en Europe, le fermier indien touchera 25 centimes d'euros. Il serait temps qu'on recalcule les marges en Inde, en Amérique du Sud, comme dans la très grande distribution ici. Voilà, pour conclure, achetons circuit court, achetons équitable, achetons bio, du global au local, c'est certainement la meilleure logique et je crois que là, on va pouvoir en discuter avec nos invités de ce soir.
Eh ben, merci Laurence, la transition est effectivement toute faite. Acheter local, ça veut dire, par exemple, adhérer à une AMAP. Alors, on reçoit Garlon Kergolet, donc vous êtes administratif du réseau AMAP Île-de-France. Est-ce qu'on peut commencer déjà par dire ce que c'est qu'une AMAP? Parce que mon voisin de droite à Garbon, il ne sait pas ce que c'est qu'une AMAP.
Ça, alors, les AMAP, qu'est-ce que c'est? Les AMAP, déjà, le mouvement, en fait, c'est 10 ans cette année. Les AMAP, ce sont des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc, la AMAP, c'est le partenariat, en fait, entre un groupe de consommateurs et un paysan. Généralement maraîcher, parce que le premier contrat qui existe, c'est le contrat maraîcher. Donc les paniers de légumes, comment on les récupère? En fait, le groupe de consommateurs se met en place. Il y a d'abord un noyau dur qui se met en place, qui cherche un partenaire, qui trouve un paysan, et ils signent ensemble un contrat. C'est-à-dire que chaque AMAPien va signer un contrat qui va durer 6 mois ou 1 an, ça dépend des AMAP. Et s'engage à préfinancer la récolte, s'engage à venir chercher son panier toutes les semaines, s'engage à participer aux distributions, à donner des coups de main sur la ferme. Et de l'autre côté, le paysan s'engage à livrer un panier de légumes toutes les semaines, à être transparent sur ses modes de production, à accueillir les amapiens sur la ferme, à faire un peu de pédagogie pour expliquer comment ça fonctionne. Voilà, donc c'est né il y a 10 ans, le mouvement a
bien
grandi.
Ça vient d'où au départ?
Alors, il y a plusieurs origines. Il y a une origine japonaise, les Teikai au Japon, en fait. Il y a plusieurs mouvements. Il y en a eu aux États-Unis, les CSA. Et c'est vrai que la première AMAP en France, qui est née en 2001, s'est inspirée d'une CSA de New York, où un paysan de PACA était allé voir sa fille à New York et a vu une distribution dans une rue à New York.
D'accord.
Si c'est quoi ça, et si j'en parlais chez moi.
D'accord. Donc, voilà. Et ces légumes, donc pour donner un ordre de grandeur aux gens qui ne connaissent pas du tout, je ne sais pas si c'est un prix moyen, mais moi je paye 15 euros par semaine par exemple, pour en général 5 à 6 kilos de fruits et légumes. Est-ce que c'est un prix moyen
Alors, ou est-ce que c'est plus cher ou moins cher
Est-ce que je me fais avoir par mon AMAP peut-être?
Alors c'est vrai que souvent, très très souvent, les médias parlent des paniers AMAP comme des paniers bio pas chers, des bons plans... des plans radins, voilà, enfin, comment avoir ses légumes moins chers. Une AMAP n'est pas un panier, c'est d'abord un partenariat. Et le prix du panier, Le panier, c'est un partage de récolte, en fait. Donc ouais. Déjà, on ne va pas avoir le même panier en hiver qu'en été. D'une semaine à l'autre, il n'aura pas le même poids, pas les mêmes variétés de légumes. Donc il faut quelque part, c'est un peu difficile pour beaucoup d'amapiens de se détacher, enfin même de paysans, se détacher du prix du marché. On peut avoir des paniers à 10 euros, des paniers à 20 euros, mais comment est fixé le prix du panier? Ce qui est important, c'est que c'est un prix juste pour le producteur. Donc en fait, un producteur, il va calculer ses charges, il va calculer l'achat des semences, du matériel, son salaire. Ça peut être très souvent discuté avec les amapiens. Quel salaire il va être, est-ce qu'il va se payer au SMIC ou est-ce qu'il va se payer un peu plus? S'il a plusieurs salariés également, combien il va payer ses salariés? Donc tout ça, il prend en compte le calcul de ses charges. Il va voir combien
c'est
de
paniers... C'est quand même toujours des légumes bio.
J'en parlerai après. D'accord. Je finis sur le prix, mais c'est vrai que voilà, on peut parler du bio aussi. Il va calculer donc le prix de ses charges, voir combien de paniers il va pouvoir produire par semaine et diviser tout ça, enfin diviser ses charges par le nombre de paniers qu'il peut produire. Et ça va faire un prix de panier. Donc le prix de panier, il est variable en fait. D'une AMAP à l'autre, il ne faut pas faire de dumping en disant « moi j'ai un maraîcher, mon panier il est à 12, ah moi il est à 20, ah, comment ça se fait que le tien il est à 12 ?» D'abord, on paye un prix juste pour la personne qui vous amène les légumes. Ça, c'est très très important. La notion de partage de récolte et de prix du panier qui correspond aux frais réels et à un salaire juste pour le producteur.
Oui, avec une donnée intéressante, c'est que la totalité de la production est vendue, ce qui n'est pas le cas quand on passe par un réseau de distribution classique, puisque j'ai vu des chiffres comme quoi, par exemple, quand un agriculteur vend par un réseau de distribution de la grande
sur un marché,
en général, ça peut aller jusqu'à 60% de la récolte qui n'est pas vendue parce qu'elle n'est pas présentable, en fait, c'est ça.
Mais sur les marchés même, s'il amène sa production sur le marché et que, certains légumes n'ont pas un aspect présentable, ils ne vont pas être vendus, ils vont rester à la fin, il va devoir les jeter. D'accord. Donc, quel que soit le mode de distribution, autre que préachat de la totalité de la récolte.
Alors que là, tout est vendu,
tout est pré-vendu.
Il y a moins d'intermédiaires,
donc ça
participe quand même à baisser le coût global de ce,
oui, puisqu'il y a moins de pertes,
de ce prix de légumes.
Et concernant,
et puis l'idée, c'est vraiment de faire un contrat entre le producteur et les consommateurs.
Voilà,
il y a un engagement à l'année. C'est des systèmes qu'on peut comparer un peu au système du commerce équitable aussi, dans une certaine mesure, où on n'est pas soumis aux fluctuations du marché. Imaginons qu'il y ait beaucoup de fraises, parce que c'est une année où il y a beaucoup de fraises. Tout ça, ça va peser dans le prix global sur l'année. Là, il y a un engagement à l'année partenariale entre les consommateurs et le producteur.
Quand tu parles de commerce équitable, Laurence, oui, c'est vraiment c'est du commerce équitable Nord-Nord. C'est un engagement solidaire. On est solidaire au niveau des aléas climatiques, des aléas de production.
Jean, tu veux dire un mot?
Oui, peut-être, parce que je pense que ce qui est intéressant dans ce type de système et cette expérimentation, parce que pour moi, j'emploierais assez facilement le terme d'expérimentation sociale en vraie grandeur, le rapport renouvelé entre producteurs et consommateurs, partenariat, mais même contrat. Mmh. Ça veut dire, parce que le mot partenaire, il est souvent très utilisé. La grande distribution, le nombre de fois où ils disent qu'ils ont des agriculteurs comme partenaires, là, il ne s'agit pas du tout de la même chose.
Ouais, ouais.
Alors, je crois que ce qui est très important dans ce qui vient d'être dit, c'est que ce qu'on paye globalement, d'abord, on paye globalement un ensemble de biens alimentaires et non pas un légume donné. Donc, on ne parle plus du prix d'un légume, on parle du prix du panier et même du prix, en fait, d'un ensemble de production sur l'année. Et du coup, on part du coût de production. Alors, ce qui me semble tout à fait intéressant dans cette initiative, c'est que c'est une vieille revendication des agriculteurs qu'on leur rémunère leur travail, justement, au coût de production. Eh bien, là, voilà un cas de figure où on met ça sur la table et où, effectivement, on sort un peu, en quelque sorte, du marché, on calcule le coût de production et puis, après, on répartit les produits. Et comme... tout à l'heure l'a dit Laurence, l'année où il y a beaucoup de fraises, ben vous mangerez beaucoup de fraises, tant mieux pour vous.
Oui.
Et l'année où il n'y aura pas de fraises, ben vous ne mangerez pas de fraises, et puis vous en mangerez moins. Et ça ne sera pas dramatique.
C'est ça, parce
c'est
que c'est
aussi accepter des règles de production qui sont des règles de saison, mais des règles d'aléas.
Des règles d'aléas, c'est aussi un partage un peu des risques.
C'est un partage du risque, ça c'est essentiel dans la production agricole, cette question de l'aléa.
Voilà.
Et que ce ne soit pas simplement le producteur ou bien le fisc, parce qu'on pourrait aussi faire payer ça par les impôts. Là, non, chacun prend ses responsabilités et on partage l'ensemble des risques entre producteurs et consommateurs.
Et alors, à l'échelle nationale, ça représente quoi par rapport à l'agriculture, par rapport à... C'est infime encore, ce système d'AMAP ou,
C'est quand même marginal par rapport à la production totale. Après, c'est marginal en termes de proportion de chiffre d'affaires, mais ce n'est pas marginal en termes de mouvement... écologique, social.
Et c'est plus parisien que provincial, pas du tout, ou provincial ou pas du tout, ou c'est
Bah, on a 15, je crois qu'il y a 15 000 AMAP en gros en France et il y en a à peu près 150 en Île-de-France. D'accord. C'est pas trop proportionnel parce que il y a quand même 20% ouais. de la population française en Île-de-France.
Je pense que là-dessus d'abord, ce mouvement il s'est développé de manière inégale selon les endroits. Il y a une histoire. Ouais. En Provence, c'est parti très fort parce que les premières AMAP étaient là. Et puis les gens étaient peut-être plus sensibilisés aussi au marché, à la proximité. En région parisienne, un problème qui est important, c'est qu'on a 10 millions d'habitants d'un côté et les producteurs qui sont autour, bon, assez souvent, ce sont la plupart du temps même, ce sont des céréaliers, donc vous pouvez aller leur acheter du blé, mais enfin, vous n'en ferez pas grand-chose. Mm-hmm. Par contre, les producteurs de légumes, il y en a très peu, il faut aller chercher très loin. Donc il y a déjà un frein naturel avec l'expansion de la map. Et puis, il y a une histoire. En Rhône-Alpes, par exemple, il y avait des vieilles traditions de circuits assez important entre producteurs et consommateurs.
Déjà des circuits courts, en fait,
oui,
c'est ça ?
Oui, des circuits courts. Alors ça, je reparlais un peu des circuits courts. Là, on peut donner quelques chiffres.
Circuits courts, c'est-à-dire voilà. qu'on va très vite du producteur au consommateur sans avoir beaucoup d'intermédiaires.
Sachant que c'est parfois un concept un peu flou, c'est pas non plus quelque chose de miraculeux. Mais bon, globalement, les circuits courts, entre 5, 6, 7, 8% de la production passe par les circuits courts. C'est-à-dire beaucoup plus, enfin, les AMAP sont là-dedans.
D'accord.
Alors, moi, je pense qu'il faut avoir une vision d'ensemble de ce renouvellement des rapports producteurs-consommateurs. L'origine, c'est quand même une insatisfaction des consommateurs par rapport aux biens alimentaires, que ce soit par rapport à des questionnements sur la qualité ouais. ou que ce soit par rapport à des questionnements d'ordre éthique et idéologique, ayant l'impression qu'on leur vend des choses qui sont faites n'importe comment, qui posent des problèmes par rapport à la nature, qui posent des problèmes par rapport à la justice sociale, bien qu'on soit dans une économie tout ce qu'il y a de marchand. Nos contemporains sont très sensibles aux questions de justice sociale. D'ailleurs, il n'y a pas que les AMAP, hein, le commerce équitable, tout ça. Enfin, il y a une sensibilité. Et les AMAP rentrent dans ce genre. Et les circuits courts, globalement, ils répondent à un besoin que les consommateurs ont de connaître ce qui est produit, ce qui les produisent et où c'est produit. Il y a un besoin de réidentification hein, de ce que c'est que l'alimentation, là où c'est fait. Après, il y a derrière ça plein de motivations. Mais ce besoin de connaissance, je dirais, de sortir de l'anonymat du bien standard de mauvaise qualité, du oui, poulet oui. Aux hormones qui est fait, bon, je ne sais pas où dans le monde, ça, effectivement, là-dessus, il y a eu un moment donné, il y a eu un ras-le-bol. Il ne faut pas oublier non plus les grandes catastrophes ou potentialités de catastrophes qu'on a failli avoir, du genre l'ESB, hein, l'encéphalite spongiforme, qui ont donné peur aux gens. Ça a participé aussi à ce renouvellement. Les gens ont compris que dans ces circuits courts ou dans des circuits organisés, c'était aussi un moyen de maîtriser des risques de dérapage hein, de grande nature. N'oubliez pas que l'ESB en France, il y a eu très peu de morts, mais en Grande-Bretagne, il y en a quand même quelques centaines. Et les modèles de prévision qui avaient été faits à l'époque disaient qu'on pouvait en avoir entre quelques centaines ou quelques centaines de milliers. On ne savait pas très bien avec quoi on jouait. Donc là, c'est clair que toutes ces... Cette dégradation de la production alimentaire a généré chez un certain nombre de gens une prise de conscience et une envie, effectivement, de fonctionner autrement.
De savoir d'où ce qu'on mange provient. Bon. Je reviens sur ma question, du coup. Alors,
Sur le bio.
Ouais.
Bah, d'abord, pour compléter ce que vient de dire Jean, c'est vrai que souvent, les Amapiens viennent vers le panier Amap pour manger sainement.
Oui.
La majeure partie des familles, des jeunes couples avec enfants, ils viennent pour manger sain, quoi. Et ils ne viennent pas tous pour soutenir les paysans, mais le rôle aussi de l'association, de la vie associative d'une AMAP, c'est d'aider aussi à la compréhension des problématiques locales, paysannes.
Bien sûr.
Donc c'est vrai que voilà, c'est un début.
Oui,
et
c'est
après,
un lien, c'est un lien très fort. Entre,
et mais c'est pas, lien, et c'est pas plus mal, hein, c'est-à-dire que moi, je vois, il y a énormément de couples avec enfants, voilà, ouais, et puis il ouais. y a beaucoup de personnes âgées qui commencent à prendre conscience, même à 70 ans.
Voilà.
C'est vrai qu'il y a une prise de conscience des liens environnement et santé hein, qui est très forte. On fait face aujourd'hui à une épidémie de cancer qui est quand même très inquiétante. Et on commence quand même à avoir de manière beaucoup plus ancrée l'idée que pesticides, intrants chimiques ont une incidence sur la santé humaine. Et de fait, ça concourt aussi, et heureusement, à un souci de mieux s'alimenter.
Et sans vouloir faire peur, sans parler de cancer, il y a aussi les problèmes de fertilité. Et ma mère, qui est gynécologue, qui avait assisté à la projection du film Severn il n'y a pas très longtemps avec moi, disait dans le débat qui a suivi, de toute façon, nos enfants ne pourront plus nous accuser parce qu'on n'en aura plus, quoi. Alors c'était une petite note qui se voulait humoristique, mais c'est vrai que l'heure est grave. Enfin, il y a de plus en plus de malformations, de couples qui ont des problèmes de fertilité. Ouais. Oui, et ça vient de là aussi. Enfin, ça vient de ce qu'on mange et de l'environnement. Voilà, faut... Bon, pour revenir au bio. Bon,
ouais, pour revenir au bio.
Enfin, déjà, je voulais juste préciser, je crois que je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit 15 000 AMAP, non, c'est 1 500 AMAP, j'ai multiplié 1 500, par 10. Ouais, oui, en fait, il y en a à peu près 150 à 200 en Ile-de-France, et il y en a à peu près entre, je ne sais pas, 1 200 et 1 500 dans la France. Voilà, pour en revenir au bio, dans il y a le terme AMAP...
C'est inscrit dans la charte.
La charte, j'allais en parler. Donc la charte, le terme AMAP repose sur une charte qui a été déposée en 2003, donc la marque AMAP est déposée. Donc, il faut respecter la charte pour pouvoir être une AMAP.
D'accord.
Le point 3 de la charte des AMAP ne précise pas qu'il faut être certifié bio. Juste qu'il faut avoir des pratiques agroécologiques et durables, sans intrants, donc sans pesticides, sans engrais, etc. Mais donc, il n'y a pas d'obligation d'être labellisé.
D'accord.
Alors, très souvent, les producteurs le sont.
Mais il n'y a pas d'obligation d'être labellisé, mais il y a obligation de ne pas utiliser de pesticides et d'entrants.
Oui, c'est
clair.
Mais d'accord. On ne demande pas le label. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des producteurs qui soient aussi pas AB, mais qui peuvent être Nature et Progrès, Déméter, parce qu'il y a d'autres il y a d'autres mentions qui ne sont pas forcément.
Il y a des vérifications qui sont faites.
Alors, au niveau des vérifications, quand un producteur il est AB, c'est bon, on sait qu'il est visité. Après, au niveau des autres producteurs, ou même au niveau de tous les partenariats, on essaye de mettre en place, en Ile-de-France en tout cas, le SPG, le système participatif de garantie, qui existe déjà, qui a déjà été mis en place un peu, je crois, en Rhône-Alpes et en PACA, mais qui est un système qui existe chez Nature et Progrès, chez Minga, dans d'autres structures, dans d'autres systèmes. En fait, c'est pas une certification par tiers comme l'est par exemple comme le fait EcoCert ou Qualité France pour la mention AB. C'est une évaluation par les pairs, donc c'est d'autres producteurs, d'autres consommateurs qui vont venir sur l'exploitation et qui vont vérifier certaines choses, remplir une grille, mais c'est pas un contrôle, c'est plus une évaluation des pratiques pour voir où on en est, où on va, comment on peut y aller. Voilà, c'est plus un travail collectif. Et donc, c'est ce qu'on essaie de mettre en place au sein du réseau AMAP Ile-de-France. Donc là, évaluer les modes de production du paysan, évaluer le fonctionnement de la vie associative pour le groupe et évaluer aussi le partenariat.
D'accord. Et c'est quoi parce que ça, quand on le présente comme ça, ça part un beau système quand même, ce système d'AMAP. C'est quoi les difficultés de ce système? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des limites?
Alors moi, je vois une limite. Quand on n'a pas de famille, par exemple, c'est très compliqué. Quand on n'a pas un rendez-vous fixe, en fait, dans l'organisation de sa semaine, c'est très compliqué de faire appel, enfin de s'inscrire à une AMAP. En tout cas, c'est mon avis personnel, je trouve. C'est beaucoup plus facile, effectivement, quand on est une famille, qu'on a un nombre de menus relativement fixe dans la semaine, parce qu'il faut un point de rendez-vous, il faut participer aussi éventuellement à l'établissement des paniers, ça dépend des AMAP. Ça, c'est un point qui est peut-être
c'est clair
que
c'est une contrainte, oui, c'est clair, c'est une contrainte, toujours toutes les semaines, au même moment, au même endroit, à un moment donné.
Oui, mais c'est aussi gérer des ressources aussi. Hein. C'est gérer même un demi-panier, par exemple, en fonction de son mode de vie. En ville, hein, quand on travaille beaucoup et quand on a beaucoup de déplacements, c'est pas toujours évident de gérer de manière égale sur 50 semaines son approvisionnement alimentaire. Ça, c'est une des limites qui peut être un peu compliquée parce que ça implique derrière aussi de traiter quoi, hein, ce qu'on reçoit si on ne veut pas jeter la nourriture. Après, juste pour finir, l'autre truc, c'est du point de vue de l'agriculteur. Je pense qu'il y a aussi des limites qui sont intéressantes à regarder. Hein, parce qu'autant, il y a plein d'avantages pour les agricultrices et les agriculteurs en termes de contrats, etc. En même temps, les agriculteurs se retrouvent aussi dans un face-à-face, entre guillemets, avec un groupe de consommateurs. Et c'est pas toujours évident pour des professions qui sont censées aussi être très indépendantes, même si ça n'est plus vrai dans le système de production agricole intensif, où en fait on dépend à la fois de celui qui vend les engrais et de celui qui achète la production derrière. Voilà.
Alors Jean, tu veux peut-être rebondir, Jean
oui,
Plévinage, tu veux peut-être rebondir là-dessus
deux choses sur le calibrage, quoi. C'est vrai que quelque part il y a l'idée de famille qui va consommer 5 kilos de légumes, donc si on est soit célibataire ou même de jeunes couples. Bon, alors il y a la question du demi-panier. Moi, dans une AMAP parisienne dans laquelle il y a mon fils, quand ils prennent pas le demi-panier, parce qu'ils sont deux, donc ils prennent un demi-panier, en fait il y a un système, ils préviennent et le demi-panier est redistribué, repartagé aux autres. Et ça, c'est pour eux, ça correspond aussi à cette notion d'engagement. Mmh. On n'a pas besoin, donc on partage aux autres, quoi, au lieu de se trouver coincé. Bon. Après, la question du lieu, moi, ce que je veux dire, c'est qu'à côté des AMAP, il y a plein d'autres formes de distribution qui se mettent en place, dont certaines sont, je trouve, assez bien adaptées à la vie moderne, qui sont, par exemple, des points de dépôt qui sont dans des gares. Les gens, la plupart d'entre nous, peut-être pas nous-mêmes, on a peut-être une vie régulière, on circule de manière régulière, mais la plupart de nos contemporains passent chaque jour au même endroit. Et du coup, travailler sur ces points de passage peut résoudre en partie le problème que soulève Laurent sur la commodité. Vous savez que le vendredi soir, vous repartez avec votre panier de légumes. Bon, voilà. Alors, finalement, si on n'a pas une vie, ça exige une vie hebdomadairement organisée.
D'accord.
Ça, c'est un point important.
Et puis après, il y a des gens comme moi qui ont le luxe d'aller régulièrement à la campagne et d'acheter leurs légumes à des copines qui produisent. Et voilà. Et là, on est dans des rapports directs aussi qui sont.
Oui, mais c'est un peu ce qu'on retrouve. C'est un peu ce qu'on retrouve dans la map, hein, ce côté.
Ou d'aller sur le marché aussi. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir. Il n'y a pas un système. C'est dans la diversité des systèmes qu'à la fois les différents profils d'agricultrices et d'agriculteurs peuvent se retrouver et les différents profils de consommatrices et de consommateurs peuvent aussi se retrouver. Oui. Parce qu'en même temps, il y a un vrai plaisir à aller au marché et s'approvisionner, etc. Donc, oui, c'est pas... On est dans, voilà, il faut, ce qui est important, c'est que les AMAP, il y a un rôle aussi de sensibilisation à l'agriculture, à ce métier-là, à l'alimentation. Et ensuite, chacun trouve un peu son équilibre comme il le souhaite, quoi. Tant encore faut-il qu'il y ait la diversité nécessaire et qu'on ne soit pas obligé d'aller en grande distribution pour acheter des légumes, quoi. Hein.
Peut-être une amélioration potentielle du système qui existe déjà, c'est effectivement plusieurs agriculteurs qui se mettent ensemble. D'abord, ça permet d'avoir une gamme de produits plus large et puis de compenser le fait qu'à un moment donné, l'un, il va louper ses carottes alors que l'autre va les réussir. Donc, ça permettra que les gens aient toujours des carottes ou des poireaux dans leur panier, je ne sais pas. Mais en tout cas, et assez souvent, ça, c'est un point important. Et deuxièmement, ça veut dire aussi que, quelque part, l'agriculteur n'est plus tout seul par rapport à un groupe de consommateurs. C'est-à-dire que, pour moi, le collectif, ça demande... Si on veut que ça dure et que les gens s'y sentent bien, qu'il y ait des règles d'équilibre. Donc un groupe de consommateurs, ils discutent entre eux, et ils fondent d'ailleurs la map sur la base d'une discussion entre eux, le respect et un certain nombre de choses qu'ils font entre eux. L'agriculteur en face, tout seul, l'expérience montre qu'il y a une assez grande rotation des agriculteurs qui produisent pour les AMAP. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut aller vers des choses plus consolidées, donc des groupes d'agriculteurs
qui laissent tomber le système au bout d'un moment, c'est ça?
On ne sait pas, ou qui laisse tomber, ou qui se fâche, ou qui part, ou qui change. Ouais, je pense qu'il y a une consolidation qui est possible à partir du moment où il y a un petit groupe d'agriculteurs qui va répondre effectivement à un groupe de consommateurs beaucoup plus grand. Je sais qu'il y a des choses comme ça qui existent.
J'ai quelques exemples.
Oui. On va faire notre petite parenthèse musicale du troisième jeudi. On reviendra juste après avec vous sur peut-être en élargissant un peu le débat sur l'avenir de l'agriculture en France. Il y a beaucoup de choses à dire, on n'aura pas assez de temps. Aujourd'hui, notre parenthèse musicale, elle est portée par un chanteur et poète qui s'appelle Arbon. Bonjour Arbon.
Bonjour.
Arbon, vous êtes lancé dans la musique en 2003, donc vous êtes j'allais pas dire pas jeune auteur, parce que vous avez toujours, et avant ça vous avez déjà baigné dans un univers de littérature depuis longtemps, mais vous avez toujours écrit des chansons. Mais votre carrière, elle a démarré en 2003, vous avez fait 3 albums, premier qui s'appelait Être et avoir été en 2005, ensuite Il pleut au paradis en 2007, et un album qui est sorti en mars 2010, donc il y a un peu plus d'un an, qui s'appelle Ça arrive à tout le monde.
Oui.
Déjà, vous ne saviez pas ce que c'était qu'une AMAP, ça a éclairci un peu...
Non, mais je ne sais pas si les gens qui ne connaissent pas ont découvert ce que c'était. J'aimerais dire que c'est les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, voilà.
C'est ça, voilà.
Je fais un peu de la MAP sans le savoir et de façon un peu dégradée parce qu'il y a un petit camion qui passe dans mon quartier 2 ou 3 fois par an avec la Normandie, avec plein de légumes, plein de pommes, plein de poires et...
Il y a d'autres systèmes, alors, hein, comme tu disais, genre, d'accord, ok. Bon, alors vous, Arbon, vous êtes lancé dans la musique en 2003, c'est pas une période très facile pour se lancer dans une carrière de chanteur troubadour. Est-ce que vous imaginiez que c'était aussi difficile en démarrant ce...
Non, mais de toute façon, non, parce que là, objectivement, c'est vrai que le secteur de la musique, il s'est quand même effondré, il a perdu les 2/3 de son chiffre d'affaires entre le moment où j'ai commencé et maintenant. C'est pas par ma faute. Hein,
un peu, mais bon, ça n'est pas. Y a pas que...
je ne pense pas. Mais donc oui, c'est difficile de vivre de sa musique. Maintenant, voilà, c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas bien. Et je regrette absolument pas de m'être lancé là-dedans.
D'accord. Hein. Et là, votre dernier album, là, ça s'est passé comment? Il a reçu des bons échos.
Oui, il a reçu quelques bons échos. Pas énormément, parce que, justement, comme je ne suis pas soutenu ni par une major, enfin, c'est gros. Voilà, et que de plus en plus, en fait, la musique, aujourd'hui, son problème, c'est qu'elle est de plus en plus concentrée sur un tout petit nombre enfin, je veux dire, médiatiquement parlant, sur un tout petit nombre de chansons et de chanteurs. Et donc, la diversité qu'on cherche à maintenir en écologie et dans le monde agricole, il faudrait aussi se préoccuper de la maintenir dans le monde musical.
Voilà.
Et ça s'appelle Équitable, il y a un groupe qui s'appelle Faire Playlist, et qui travaille justement à une rémunération équitable de la musique, et tout un tas de systèmes un peu inventifs, notamment des CD recyclés, mais aussi des rémunérations plus équitables pour les artistes.
Alors, on reparlera avec vous juste après, mais je ne voudrais pas oublier de parler de votre blog, parce que, Armand, vous avez un blog que je lis moi-même tous les jours, puisque vous écrivez tous les jours, sauf le dimanche. J'ai lu l'article sur le dimanche aujourd'hui, qui est excellent. Vous écrivez donc, vous publiez un article tous les jours sur ce blog, souvent très fin et très drôle. Donc, le blog pour nos auditeurs qui s'appelle mekiarbon.over-blog.com. Voilà, enfin, vous tapez mekiarbon sur Google et je pense que vous tombez dessus. Et vous avez aussi un site arbon-le-site.com. Et donc, où là, vous vous exprimez de manière quotidienne, donc sauf le dimanche, en répression au discours de notre chef d'État qui a appelé il y a quelques mois ou quelques années à dire on allait tout bientôt tous travailler le dimanche. Donc, vous avez décidé ce jour-là d'arrêter de publier un article le dimanche. Je trouve ça très drôle. Donc, tous les jours, vous contraignez à publier un article sur ce blog. C'est à la fois une contrainte et à la fois un plaisir, on sent quand même. Ça vous prend du temps quand même.
C'est un plaisir, ça prend pas mal de temps, parce que, en fait, j'essaye de varier les sujets, j'essaye, disons, de pas trop coller à une actualité, même si de temps en temps, je ne me prive pas de le faire quand ça m'inspire, mais enfin, de pas trop être collé sur l'actualité, de dire des choses qui me tiennent plus à cœur, qui sont peut-être un peu plus en recul, un regard un peu plus à l'écart. Et donc voilà, c'est un travail. Et puis sur ce blog, ce qui est bien, c'est que cette écriture nouvelle permet aussi de mettre en regard des images, des textes, des musiques, enfin d'utiliser en fait les possibilités du multimédia.
Oui, parce que vous avez toujours, je vous connais un peu depuis le début, vous êtes lancé, vous avez toujours aimé jouer un peu avec cette nouvelle technologie aussi. Oui. Vous êtes un des premiers à avoir fait un concert avec un iPhone, par exemple.
Absolument.
Et vous êtes toujours dans cette... ça vous amuse toujours, ça.
Ça m'amuse toujours.
D'accord. Ouais. Bon, bah là, aujourd'hui, vous êtes juste avec une guitare sèche. Hein, vous avez vu, ici c'est artisanal, c'est Fréquence Paris pluriel, retour aux sources. Donc on va vous écouter pour une chanson en acoustique. C'est quoi le titre de la chanson?
Eh ben, ça va être Être et avoir été, justement.
Être et avoir été, donc une chanson extraite de votre premier album. Et on écoutera en fin d'émission, en version CD, une autre chanson de vous qui s'appelle Le Cochon. Mais tout de suite, c'est Être et avoir été, donc Arbon.
La question paraît ordinaire, mais il faut bien la méditer. La voici posée sans manière. Peut-on être et avoir été? Hélas, si son énoncé clair et parfait de simplicité, les réponses qu'on peut y faire sont parfois tarabiscotées. Un tel fera des commentaires sur l'indécidabilité, la position de l'auxiliaire. Pourrait-on avoir être été tel autre entendant de travers qu'on peut peut-être avoir un thé? Répondra volontiers mon cher avec un sucre par côté. Tel autre encore, paillard naguère, dira pouffant et dilaté d'un jeu de mots bête et vulgaire qu'on peut être et avoir pété comme l'agneau dans la bruyère, la vache. Ayant brouté, mâchant, relâchant son derrière, c'est juste un P à ajouter. Ces interventions nous atterrent, leurs auteurs sont à éviter. Mais revenons à notre affaire, peut-on être et avoir été? Eh bien, sans plus longtemps vous faire autour du pot tournicoté, le oui à d'ardents supporters, le non des suppos patentés. Le oui a pour turiféraire l'ambition et la vanité, ces divagations saisonnières qu'on voit apparaître l'été, mais que l'automne s'accélère et l'on va se prendre à douter du côté des longs cimetières. Le nom paraît bien l'emporter. Et quand nous buvons sous la terre les eaux du Styx et du Léthé, perdons-nous le goût doux amer de naître et de n'avoir qu'été, qu'été des bouffons éphémères, qu'étant un peu d'éternité, et condamnés au grand hiver à ne pas être sans été. Oh, quelle est crue et singulière cette question désappointée, suggérant par quelques mystères qu'on peut être en ayant été. Mais l'humain en bon mammifère peut précisément constater qu'il est né à téter sa mère. Pour être, il faut avoir tété. Et dès lors, on ne peut plus faire comme si de rien n'eût été. Même si la vie est chimère, il faudra bien s'y entêter et se réjouir, se satisfaire de paraître avoir existé. Car qu'y a-t-il de mieux à faire à part être et avoir été? Car qu'y a-t-il de mieux à faire à part être et avoir été?
Merci. Merci, merci Arbon. C'était un bon choix de chanson parce que je trouve que ça montre bien un peu l'univers dans lequel vous êtes, de beaucoup jouer avec les mots. C'est quelque chose qui vous passionne. Sophie, tu veux bien juste leur donner le micro une seconde pour qu'on termine. Donc beaucoup de jeux sur les mots. Ouais. T'as passionné la langue française.
Ouais,
voilà. Sans, on ne va pas dévoiler votre curriculum vitae passée. Les gens y ont regardé sur le net, mais voilà. Pour terminer, vous êtes en concert, on va donner la date de votre concert à Paris, c'est 10 octobre prochain au 20e théâtre, donc un petit théâtre qui se trouve dans le 20e arrondissement.
Oui, exact.
Renvoyez vers votre site, mais comme d'habitude, on met sur le site de zoomecologie.net pour nos auditeurs les liens vers les sites dont on parle, donc arbon-lecite.com et le blog mais qui est arbon.over-blog.com. Voilà. Et vos prochains projets pour terminer, vous travaillez sur un album
Oui, je suis en train d'écrire des chansons et aussi une comédie musicale.
D'accord.
Donc
ce sera pour la fin 2011 ou...
Fin 2011, début 2012. Enfin bon, c'est un projet assez lourd, ça prend du temps. Mais,
d'accord.
Mais j'y travaille.
Bon, bah écoutez, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. On aura l'occasion de se revoir et on reparle un peu d'agriculture. Jean Pléminage, par exemple.
Il y avait une belle référence à l'agriculture dans cette chanson.
Des vaches et des moutons.
Assez pastoral, effectivement. Bon, malheureusement, l'agriculture n'est pas que pastorale. Bon, elle l'est encore un peu, mais c'est pas...
Alors, l'agriculture française, justement...
Alors, l'agriculture française, vous sortez de Paris...
Parce que quand on veut peindre un tableau noir de l'agriculture française, on trouve pas mal d'idées. Oui, hein.
Mais vous avez d'abord peint d'un tableau...
Les sols sont foutus, la nourriture est bourrée de pesticides... Est-ce qu'on peut être un peu optimiste, quand même, pour ce qui va se passer?
Oui, parce que tout le monde ne fait pas de la même manière. Je crois que c'est quand même important. Heureusement, d'ailleurs, si on vit dans un monde complètement homogène... On pourrait être complètement pessimiste, mais ce n'est pas le cas. D'abord, tous les systèmes de production agricole, où toutes les productions ne sont pas logées à la même enseigne. Et puis, il y a aussi une grande diversité d'individus. On l'a vu tout à l'heure avec l'agriculture biologique, mais c'est plus large que cela. Il y a des gens qui, à la fois, ne sont pas encore, soit parce qu'ils ne peuvent pas, parce que les modes de production technique n'existent pas forcément, soit parce qu'ils n'en ont pas complètement envie, ne sont pas producteurs biologiques, mais ne sont pas non plus complètement, forcément, inconscients sur ce qu'ils font. Et ils essayent de faire mieux. Ça, je crois que c'est assez important. C'est un milieu professionnel qui est très marqué par des valeurs, assez souvent chrétiennes, ne l'oublions pas. Hein. C'est le christianisme des campagnes, c'est quelque chose. Alors, avec toutes les variétés qu'il y a dans le christianisme, des côtés assez réactionnaires, mais aussi des côtés, le christianisme social, le progressisme, ça a beaucoup marqué le syndicalisme, et je dirais d'ailleurs, puisqu'on en reparlera peut-être tout à l'heure, quel qu'il soit, le syndicalisme majoritaire agricole, Fédération nationale syndicat d'exploitants agricoles, ou la Confédération paysanne, qui est un syndicat de gauche, mais là encore, on retrouve assez souvent des bases éthiques, je dirais, chrétiennes, et au sens large du terme, quoi. Au sens large du terme. Alors, sur les modèles de production, le grand débat, c'est de savoir pourquoi on produit. Alors, soit on produit parce qu'il faut produire le maximum de quantité dans le minimum de temps, ce qu'on appelle le modèle productiviste. Alors, le grand exemple, bien, vous sortez de Paris, il faut mieux avoir une voiture, parce que c'est vrai que c'est des grands champs de blé, et puis vous cultivez à vous tout seul 150, 200 hectares de blé, et vous produisez 2000 quintaux de blé. Oui, alors il faut que je fasse un calcul rapide, c'est ça, c'est quelque chose comme ça. Tu me calcules, quelqu'un fasse le calcul, en même temps, moi j'ai du mal à parler, à faire le calcul.
On fait confiance, on fait confiance.
Bon, ou plus, alors qu'en même temps que vous, le paysan africain ou d'Amérique latine, lui, il va produire 15, 20 quintaux. Et il va produire 100 fois moins que vous.
D'accord.
Donc là, on reviendra là-dessus, sur le commerce international. Si vous mettez tout ça en concurrence, ben bien sûr, vous n'êtes pas dans les mêmes conditions. Mmh. Et ça, un des grands sujets de discussion dans les conférences internationales, c'est les inégalités entre les producteurs du Sud et les producteurs, allez, on va dire, européens pour faire court, mais américains aussi, ne l'oublions pas. Bon, alors sur les modes de production.
Alors ce mode de production intensif, c'était pour, ça serait pour répondre à une demande nationale croissante.
Alors c'est clair, pour notre autonomie alimentaire. En France, pour l'instant, le modèle, et en Europe, on l'a monté pour produire pour soi, pour l'Europe, et après pour agro-exporter, pour exporter dans le monde. Sur certaines productions, pas sur d'autres. Mais sur les céréales, c'est très clair. Ça a été les céréales, le moteur de l'expansion de l'agriculture française, puis européenne.
D'accord. Donc aujourd'hui encore, on exporte des céréales.
On exporte aujourd'hui encore des céréales. Et quand on parle aujourd'hui de revenir à une politique agricole peut-être plus tournée vers d'autres besoins, la question des céréaliers ou la question des exportations, des conséquences que cela aurait sur les exportations, est souvent un argument qui est repris par les agriculteurs qui sont céréaliers, mais aussi d'ailleurs par les pouvoirs publics, par le ministre de l'Agriculture lui-même, qui dit « mais attention, si on produit moins, on exportera moins ». Ça, c'est assez tautologique. Mais le problème, c'est de savoir si la finalité, c'est d'exporter à tout prix ou si on a envie de produire autre chose.
Consommer sur place.
Consommer sur place ou produire autre chose ou vivre autrement sa vie, c'est quand même des questions importantes.
Voilà. D'accord.
Bon, alors, après, sur les productions... quand on dit... moi, je me méfie un peu du diagnostic, un peu comme en politique, tous pourris. Vous connaissez bien ce truc-là. Ouais. C'est facile. C'est quand même plus compliqué que cela. Il y a des responsabilités. Il y a un système qui est organisé et qui a effectivement porté cette fuite en avant vers le produire plus.
Ouais,
quand un paysan, il est endetté, s'il veut sortir du désendettement, on va dire, bon, bah, si tu fais un effort, si tu produis 20 hectares de plus ou tu augmentes ton rendement, tu seras mieux. Donc voilà, le système, il est en place. Il a fonctionné comme ça depuis maintenant 50 ans au moins. Donc ça, il y a bien là des responsabilités collectives des paysans, mais de nous aussi. D'ailleurs, nous aussi en tant que citoyens.
Parce
que quelque part, ça nous a permis quand même d'avoir de l'alimentation pas chère, peut-être pas bonne, peut-être aujourd'hui qui pose des problèmes de santé, mais ça a été quand même le corps social qui se révolte un peu aujourd'hui devant ces problématiques agricoles, a porté et a bénéficié de ce système.
Bien sûr.
Donc, quelque part, sortir de cela, c'est effectivement être plus exigeant sur ce qu'on consomme, mais peut-être parfois accepter de payer un peu plus cher le bien alimentaire. Alors, je vais juste dire un petit mot là-dessus. Quand le prix du blé augmente, si on calcule dans le prix de la baguette de pain la partie que ça comporte, l'augmentation du prix du blé, c'est pas 10% de votre baguette, c'est 1 ou 2% le prix de la farine. Alors le vrai problème qu'il y a derrière, et effectivement derrière l'agriculture, c'est l'organisation de la filière alimentaire, où on est dans un joyeux système de proportionnalité, c'est-à-dire que si le prix du blé il augmente de 20%, tous les intermédiaires qui sont derrière bien, vont simplement augmenter tout ce qu'ils font, toute leur marge de 20%. Alors effectivement, le consommateur, il se trouvera avec des produits 20% plus chers. Alors que si on ne répercutait que la simple hausse du prix de la matière première, ce serait beaucoup plus faible. Alors régulièrement, les pouvoirs publics posent cette question à la grande distribution, et encore aujourd'hui comme hier, et on dit on va faire autrement, on va passer des accords de modération. En général, c'est le mot qu'on emploie. Tout le monde va s'entendre, on est tous frères, et on va fonctionner comme ça. La seule chose qui se passe et qui est réelle et que montrent bien toutes les observations qui sont faites, entre autres par, je pense, l'Union fédérale des consommateurs, c'est que quand il y a une hausse, on répercute toujours sur le consommateur. Et quand il y a des baisses, les producteurs, ils voient le prix qui leur est versé baisser. C'est vrai sur le lait, ça a été vrai sur le blé. Et par contre, le consommateur, il ne voit jamais les prix baisser.
Les restaurateurs nous ont fait le même coup avec la baisse de la TVA.
Pareil.
Laurence.
Juste sur, sur la consommation, en fait, au fil des années, bah, parce qu'on s'est enrichi aussi, parce qu'on vit mieux, la part de notre budget consacré à l'alimentation a énormément baissé dans les budgets. Alors aujourd'hui, c'est en train de réaugmenter un petit peu parce qu'il y a une forte précarité et de grandes difficultés sociales. Mais de fait, quand on regarde l'argent qu'on consacre à acheter des loisirs, à acheter de l'électronique, à payer son forfait téléphonique,
le carburant,
aujourd'hui le carburant aussi, mais ça, ça concourt aussi à l'augmentation globale, hein, l'augmentation du carburant, et se dire parfois, quand on regarde le prix pour acheter alors j'ai parlé de viande parce que la bonne viande c'est cher aussi, hein, de se dire qu'on achète un bon morceau de viande une à deux fois par semaine, mais une viande qui est produite par un élevage respectueux, par un producteur respectueux, etc., c'est sûr que ça coûte cher. Mais on peut se dire qu'on peut faire ce choix-là aussi à un moment, pas consommer de la viande tous les jours et de la viande de très mauvaise qualité, parce qu'aussi, à un moment, c'était le symbole de la richesse, sortir de la pauvreté.
Le steak quotidien.
Voilà, consommer de la viande tous les jours. C'est un problème qui se répercute aujourd'hui dans les pays dits en développement, hein, où la consommation de viande explose, parce que les niveaux de vie explosent aussi. Maintenant, regardons quel prix on est prêt à mettre en prévention, je dirais aussi, par plaisir, de manger des choses agréables et bonnes, mais aussi pour éviter d'avoir des soucis de santé derrière et maintenir de l'emploi et des campagnes vivantes, parce que les paysans, c'est pas seulement de la production alimentaire, mais c'est aussi un paysage vivant et des campagnes dans lesquelles on est drôlement content d'aller se promener ensuite quand il y a des jolies haies, quand c'est un peu entretenu.
Garlone.
Juste une parenthèse, parce que tout est lié. En fait, on entend souvent, quand on voit des amapiens ou des gens curieux qui passent à la distribution, oui, mais manger bio, c'est cher. Et c'est vrai qu'il faut être drôlement bien posé, connaître un peu ses arguments, ses contre-arguments, pour dire non, le bio, c'est pas forcément plus cher, c'est manger autrement. C'est pas juste manger exactement ce que vous mangez en tout bio, quoi.
C'est oui, clair oui, que si on prend non, mais c'est de ça, toujours une question de priorité, comme tu disais, Laurence. Aujourd'hui, les gens, ils dépensent en France 8% de leur budget dans l'alimentaire. Dans d'autres pays, comme le Yémen, c'est plus de 60%, hein, le budget alimentaire. Donc, c'est vrai que les gens ont de toute façon plus envie de dépenser de l'argent dans leur nourriture. Oui. Donc, voilà,
mais
du
on
coup,
peut dépenser moins,
et du coup, ils préfèrent manger des... Voilà. Alors qu'on ne peut pas comparer deux nourritures uniquement sur le critère du prix, parce qu'il y a les qualités nutritives, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne
et
de compte dont on ne parle jamais.
Manger plus de légumineuses et moins de viande, par exemple.
Sophie.
Ah, non, il y a un truc dont on n'a pas parlé qui me dérange un petit peu, c'est qu'on parle beaucoup d'agriculture, de manger autrement. Tout à l'heure, j'en parlais de vivre autrement. Il y a aussi une notion de mode de vie, de développement local. Et je trouve quand même super important de le développer. Quand on disait on distribue dans des centres sociaux, ça me paraît super intéressant. Excusez-moi, j'ai mon volet social.
Pas de problème, Sophie.
Non, mais en plus, puisqu'on n'est pas loin, il y a l'espace 19, là, à Paris, qui accueille les distributions de la MAP Coup de Pouce, ou qui accueillait, je ne sais plus trop, mais qui participe indirectement à l'organisation de la fête des AMAP. Et voilà, clairement, les distributions ont lieu des fois dans des salles prêtées par la mairie, mais des fois dans des cafés associatifs, dans des centres sociaux. Et on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent dans les AMAP de la création de liens. En fait, c'est recréer du lien entre la ville et la campagne, mais aussi recréer du lien entre les gens. T'en as un peu parlé dans ton
introduction. On fait connaissance avec ses voisins.
On fait connaissance avec ses voisins, avec les petits vieux, avec les petits jeunes et avec tout le monde. Et donc, du coup, on a moins peur et du coup, on est mieux ensemble. Mmh. Et c'est du mieux vivre, quoi.
Jean,
je pense que sur les consommateurs, hein, ce qui se passe du côté du producteur, cette course au temps, hein, produire le plus possible par unité de temps, c'est aussi vrai du côté des consommateurs.
Bien sûr,
les gens travaillent. Alors, on discute beaucoup sur les horaires de travail, on a raison, mais quand on additionne l'horaire de travail plus les temps de transport, les gens n'ont plus le temps de cuisiner, quoi, hein, pour dire court. Et il y a là, pour un certain nombre de produits, d'abord sur le plan de la santé, ça a un certain nombre de conséquences. Cuisiner des légumes, les éplucher, je pense l'exemple des topinambours tout à l'heure, je trouve ça excellent, mais éplucher les topinambours, je trouve ça extrêmement pénible. Et c'est moi qui fais la cuisine chez moi, donc je connais la question. C'est pas simple.
Bon, on, donc, bouillie, après, oui, mais il faut les faire
c'est
bouillir
pareil,
d'abord,
c'est
et
pareil,
après
on
enlève
on va,
la
plaque.
Excusez-moi.
Mais on va laisser le topinambour de côté.
C'est toujours une question de priorité, parce que les gens, effectivement, ils n'ont pas le temps, mais ils passent 5h20 par jour, ou 3h, plus de près de 4h devant leur télévision par jour. Je compte pas les heures sur Internet. Non, donc c'est toujours une question de priorité. Est-ce qu'on veut manger bien? Est-ce qu'on prend le temps de cuisiner? Alors, ou pas? Donc c'est vrai qu'on a moins de temps, c'est avec machin.
Il y a le temps,
mais
et après,
il y a un choix à faire.
Il y a le savoir-faire. Il y a la déculturation. hein, sur les cuisines. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé en Méditerranée, je conduis beaucoup de rapports. Les cuisines de légumes méditerranéennes maghrébines, par exemple, sont des choses extrêmement nuancées. Hein. C'est pareil en gros toute la Méditerranée, où on va jouer bon, sur les condiments, on va jouer sur les herbes, sur les modes de cuisson. C'est des choses qu'on passe beaucoup de temps à préparer, qui font des choses excellentes. Bon, dans nos civilisations modernes, bon, les gens ont en partie perdu ces traditions. Et c'est clair que ça a des conséquences sur le savoir-faire et puis sur ce qu'on mange. Hein. Le steak quotidien dont on parlait tout à l'heure, bah, c'était aussi le truc simple. Vous sortez le steak du frigo, vous le mettez dans la poêle, 5 minutes après, oui, vous avez le steak dans l'assiette. Cuisiner une viande correctement, qui n'est pas seulement justement une viande à griller, mais qui est aussi ce qu'on appelle les bas morceaux à tort, ça demande un savoir-faire et du temps. Et ça peut être excellent.
Et aussi, dans les AMAP, on apprend beaucoup de recettes parce qu'on se retrouve avec des légumes, on les reconnaît pas, on dit c'est quoi, je dois prendre un kilo de topinambour, il est où, c'est ça, comment je le fais cuire. Donc on redécouvre, c'est une richesse quand même.
Il y a beaucoup d'échanges de recettes entre AMAPiens. Il y a des producteurs qui font des petites fiches avec une recette. Mais si j'ai un exemple aussi à dire pour les légumes, etc., c'est qu'au-delà de la préparation et de la cuisson, redécouvrir aussi la joie et le plaisir de manger des légumes crus. Mais ça, ce n'est possible que si les légumes sont de bonne qualité. Par exemple, on a beaucoup de betteraves rouges dans les paniers. Et les gens me disent « Oh, mais c'est long à faire cuire. » Je dis « Mais les betteraves rouges, vous pouvez les manger râpées comme des carottes. Il n'y a pas besoin de faire cuire. » Donc, c'est aussi ça. Moi,
alors,
j'avais
la
un
betterave
ami...
rouge, la betterave, vous l'épluchez. Non, vous la mettez 8 minutes au micro-ondes. Et ensuite, vous avez une super... Ça marche hyper bien. Et vous avez une super
mais
betterave.
Moi, je connais...
Il n'y a rien de plus simple. Il faut la laisser refroidir. Donc, vous la mettez dans le frigo et vous la mangez le lendemain.
Et on a tout
c'est
perdu.
Hyper simple. Hein.
Non,
c'est
mais
hyper
c'est
bon.
Que j'ai plein d'amis qui ne mangent pas beaucoup de crudités parce qu'ils ne mangent pas beaucoup de légumes bio ou frais, locaux.
Non, mais il y a des et recettes coup, très simples, en fait. Hein. On se rend compte qu'il y a des recettes très simples.
Oui, puis
il y a
aussi
des
l'absence de recettes aussi. Manger simplement. Redécouvrir une façon simple de manger sans faire des recettes.
Oui. Après, j'ai mangé pendant 3 mois du céleri, c'était difficile. Enfin, bon. Sophie, tu nous parles de la... Qu'est-ce qui se passe ce week-end?
Alors,
Sophie,
ce week-end, tu vas nous le confirmer, il y a la fête des AMAP. Il te faire un petit jingle, parce que ça va être animé sur les bords du canal, avec de la musique. Guillaume tout seul devait arriver, mais
on l'a entendu tout à l'heure quand tu as parlé, on l'a entendu.
D'accord, c'était un
bon,
peu...
Enfin, il y a la fête des AMAP, dimanche 22 mai, c'est à quelle
heure? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des stands, il y a de la musique, il y a des gens qui peuvent se rencontrer. On parlait de social, alors c'est peut-être le moment.
Plein de choses, plein de rencontres. Alors, c'est la 4e édition de la fête. Et c'est la 2e fois qu'on l'a fait, qu'on l'organise sur le Quai de Seine, sur et aux abords de la péniche Antipode. Donc, on est très contents parce que ça permet d'être sur un lieu de passage.
C'est
et
tout en
de...
face du musée d'Orsay, ça, non? C'est ça?
Pas tout à fait.
Pas du tout, d'accord.
Pas plus au nord.
Bassin de la Villette. 19e...
Bassin de la Villette, ok. Confond avec une autre péniche, alors.
19e arrondissement. Donc, un quartier qui a beaucoup, beaucoup changé en 10 ans. Moi, j'ai habité avenue de Flandre il y a 10 ans et je ne reconnais plus le quartier où j'ai habité. Il y a tellement de choses qui ont poussé, de choses qui ont changé. Il y a un petit port, il y a plein de choses. Donc, c'est le but de la fête de AMAP, c'est à la fois une fête pour les AMAPiens, par les AMAPiens, mais aussi pour aller à la rencontre du grand public. Et le fait d'être sur un lieu comme ça, on espère qu'il y aura du passage, on espère qu'il fera beau. On a commandé le beau temps.
Donc il y a les animations et les concerts.
Il y a un village associatif avec plein d'associations amies comme Agronomes et Vétérinaires sans frontières, Enercop, Frères des Hommes, Génération Future, L'Âge de Fer.
Frères des Hommes, ils font...
Frères des Hommes.
Que fait Frères des Hommes sur une... Non, c'est intéressant.
C'est toi qui voulais du social.
Frères des Hommes, en fait, Frères des Hommes, avec Minga et Nature et Progrès, ont lancé l'appel Alimentons les Régions. En fait, on va pas mal parler d'autonomie alimentaire, puisque c'est le sujet d'une des deux tables rondes qui aura lieu. Donc il y a une table ronde à 14h30 sur l'autonomie alimentaire, avec différents intervenants, dont Laurent Marbeau, le président du réseau MAPIL de France, et des intervenants de Nature et Progrès, Frères des Hommes et Miminga.
Très bien. Bon, bah, écoutez,
en Ile-de-France, on est loin de l'autonomie alimentaire, on mangerait que du pain, finalement.
Hein, c'est oui, c'est vrai
et puis sans parler...
On peut manger du bon pain, aussi, c'est pas interdit.
Ouais. L'autonomie alimentaire en Ile-de-France, c'est 3-4 jours, je crois. On est 12 millions d'habitants, on est essentiellement nourris par Rungis. Et s'il y avait un moindre problème de blocus de la région, bah, au bout de 4 jours, on n'aurait plus rien.
Ah voilà, on va terminer par une note pessimiste, ça c'est moche.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut créer des AMAP, faut créer des circuits courts, faut relocaliser aussi, recréer des ceintures maraîchères, enfin si possible. Il y a un mouvement qui se crée en ce moment sur les ceintures vivrières.
D'accord.
Et puis, comme on ne savait pas ce qu'on allait faire samedi et dimanche et qu'il va faire beau, et ben on va se retrouver sur les quais de la Loire.
Il y aura beaucoup d'animations. On parlait de Guillaume tout seul. Il y aura 3 animations musicales. Il y aura donc des associations, des tables rondes. Et pour les enfants, il y a le Café Zoïde qui sera ouvert en face sur le quai de la Loire.
Super sympa.
Bravo. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Il va être temps de conclure cette émission. Je rappelle que vous pouvez la réécouter demain, vendredi, entre 11h et midi, que vous pouvez la retrouver également sur le site zoom-ecologie.net, que vous pouvez même nous envoyer des mails, zoomecolo3@gmail.com, et c'est pas vrai ce que je disais tout à l'heure, hein, j'en reçois très peu. Merci à tous nos invités, donc Garlone, Jean et Arbon. On va mettre les liens vers les sites, des sites dont vous représentiez parfois les mouvements ou associations, ou le site d'Arbon sur le site de Zoom Écologie.
On garde des sous pour acheter le disque quand même. Hein.
Et garder des sous pour acheter le disque d'Arbon qui est encore disponible, j'imagine, quand même. Très bien. Merci à Cyril à la technique. Merci à Sophie et Laurence, mes deux animatrices. On se retrouve le jeudi 16 juin. Enfin, l'émission continue la semaine prochaine, mais vous savez que c'est quatre équipes qui se relaient. Et nous, le troisième jeudi, ce sera donc le jeudi 16 juin. On ne sait pas encore de quoi on va parler. Et on va écouter, pour terminer cette émission, un titre en version CD de Arbon qui s'appelle Le Cochon. Donc, c'est la 11 de l'album. Merci, merci à tous et à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Les chats vous regardent avec dédain, les chiens, vénération. Les seuls qui vous regardent comme des égaux, c'est les cochons. Peau rose et peu de poils, parfois la queue en tire-bouchon. C'est vrai qu'on leur ressemble à ces cochons. Oui, mais à la différence du cochon, tout n'est pas bon dans l'homme, tout n'est pas bon. Oui, mais à la différence du cochon, tout n'est pas bon dans l'homme, tout n'est pas bon. Quand Jeanneton sur son chemin croise de beaux garçons, elle pose sa faucille et taille aux tailles de jolis joues. La pratique est plaisante et quelle morale en tire-t-on? Pardi que les femmes aiment bien les cochons. Oui, mais à la différence du cochon, tout n'est pas bon dans l'homme, tout n'est pas bon. Oui, mais à la différence du cochon, tout n'est pas bon dans l'homme, tout n'est pas bon. Nous, on n'est pas du genre à se goinfrer comme des gloutons. Nous, on n'est pas des gens à se vautrer dans la merde, oh non. Mais le cochon nous observe et ne se fait pas d'illusions. Lui, il ne nous prend pas pour des jambons. Oui, car à la différence du cochon, tout n'est pas bon dans l'homme, tout n'est pas bon, tout n'est pas bon. Oui, car à la différence du cochon, tout n'est pas bon dans l'homme, tout n'est pas bon, tout n'est pas bon. Oui, car à la différence du cochon, tout n'est pas bon dans l'homme, tout n'est pas bon, tout n'est pas bon. Oui, car